Très belle matinée. Bon réveil sur Radio Chablais, il est 7h. C'est l'heure de la Zumba du réveil. Un bras en l'air, deux bras en l'air et on tire. Ah, ça va mieux.
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
Léa Journaud, efficace la Zumba du réveil.
Ouais, ça va mieux, ouais.
C'est pas mal, hein.
Ça fait du bien.
Léa Journaud nous présente le journal de 7h. Bonjour Léa.
Bonjour Bastien, bonjour à tous. Depuis une année, un chantier d'envergure transforme la ligne ferroviaire Villeneuve-Saint-Maurice. Les CFF y effectuent divers travaux comme le renouvellement de la ligne de contact électrique, l'installation de nouveaux appareils de voie ou encore la pose des caniveaux à câbles, véritable artère pour l'électricité et la fibre. Objectif, augmenter la fréquence des trains mais aussi les rendre plus sûrs et mieux adaptés aux besoins des voyageurs. Un chantier estimé à près de 100 millions de francs et dont la plupart des travaux ont lieu de nuit pour limiter l'impact sur le trafic. Néanmoins, certaines nuisances peuvent constituer un problème pour les riverains à proximité. C'est pourquoi les CFF ont développé de gros moyens en matière de communication, comme le confirme Nadia Hanan, chef de projet au CFF Infrastructure.
C'est pour ça qu'une communication très importante a été faite. J'ai de la chance sur ce projet d'avoir une exceptionnelle équipe de projet, tant au niveau immobilier qu'au niveau communication. On a rencontré énormément de riverains. On a aussi rencontré énormément de personnes qui étaient touchées d'une manière ou d'une autre, que ce soit les communes, le canton ou certains propriétaires de parcelles. Et je me tiens véritablement énormément à disposition en cas de questions. Généralement, je réponds dans les 24 heures maximum.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. Les CFF préviennent que certains week-ends, la circulation sera totalement interrompue et remplacée par des bus. Ces modifications se poursuivront jusqu'à la fin de l'année, avant la mise en service complète prévue fin 2027.
Avec les récentes chutes de neige, le danger d'avalanche se situe actuellement en degré 3 ou danger marqué.
D'ailleurs, la situation tend à se stabiliser puisqu'aucune précipitation n'est annoncée pour ces prochains jours. Toutefois, dans les Alpes vaudoises, tout comme aux portes du soleil, et malgré un sentiment d'absence de danger, il ne faut pas relâcher sa vigilance. Avec une attention particulière dans les pentes ombragées et raides où des accumulations de neige instable persistent. Pour rappel, plusieurs coulées ont été signalées le week-end dernier en raison de cette arrivée d'or blanc frais. Le degré de danger affichait même un risque fort d'avalanche de 4 sur 5 durant plusieurs jours d'affilée en raison de ces précipitations. Robert Bolognesi, nivologue et fondateur de Météorisque.
Dans un premier temps, elles ont contribué à augmenter beaucoup le danger d'avalanche. Ensuite, la neige s'est assez vite tassée, surtout qu'on a eu du redoux. Donc c'est là qu'on a commencé à avoir des différences assez marquées selon les altitudes et les orientations. Et puis d'une manière générale, cet apport de neige a été bienvenu parce qu'on avait quand même des manteaux neigeux très peu épais.
Robert Bolognesi, contacté par Guillaume Abbey. Pour toute information sur les dangers d'avalanche, il est conseillé de télécharger l'application White Risk. Un rapport d'expertise dénonce d'importants défauts dans l'échafaudage qui s'était effondré en juillet 2024 à Prilly, dans l'ouest lausannois. L'accident avait fait 3 morts et plusieurs personnes avaient été blessées, certaines grièvement. Le ministère public vaudois a indiqué hier après-midi à Keystone ATS avoir réceptionné le rapport d'expertise indépendante et décidé ce jour de la verser au dossier, confirmant ainsi une information de la RTS. Ce document conclut notamment à des défauts dans la conception et la construction de l'échafaudage, écrit encore le porte-parole du ministère public vaudois.
Les partisans du service civil ont dû cravacher.
Ils sont parvenus in extremis à récolter plus de 57 000 signatures pour faire aboutir le référendum contre le durcissement de l'accès au service civil. Ils l'ont déposé hier à la chancellerie fédérale à Berne. Parce qu'elle estime qu'il péjore les effectifs de l'armée, la majorité bourgeoise du Parlement a décidé de durcir les conditions d'incorporation au service civil, en particulier pour les hommes qui ont déjà servi dans l'armée. Le service civil ne disparaîtra pourtant pas. La conseillère nationale verte neuchâteloise Clarence Cholet.
C'est qu'une étape dans un processus de démantèlement total voulu par le Parlement. C'est très important de réagir dès cette première étape, même si ce n'est pas encore la fin du service civil. Après, on parle quand même d'une réduction de 40% des effectifs du service civil, c'est quand même une immense réduction. Et dans les EMS, pour les paysans de montagne, dans les écoles, c'est vraiment moins de personnes qui pourront venir aider et être utiles pour la société civile dans notre pays.
Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas d'abord besoin de personnes dans l'armée?
Quand une personne a un conflit de conscience et se tourne vers le service civil, moi et les référendaires, on doute fortement que c'est des personnes qui vont faire l'armée à défaut. C'est des personnes qui vont se faire réformer et finalement ne pas être utiles ni à l'armée ni à la société civile, ce qui est vraiment dommage.
Des propos recueillis par notre correspondant parlementaire Serge Jubin. C'est donc le peuple qui décidera en juin ou en septembre prochain s'il faut durcir l'accès aux services civils.
Donald Trump a annoncé hier que le Conseil de la paix pour Gaza avait été formé.
Il s'agit d'une étape centrale du plan américain pour le territoire palestinien, ajoutant que les membres de cet organe qu'il présidera seront annoncés prochainement. Ce conseil aura pour mission de superviser un comité palestinien temporaire et apolitique composé de 15 technocrates.
On passe au sport, le Master Round de Première Ligue de hockey sur glace débutera ce week-end pour le HC Martigny.
Il s'agit d'un mini-tournoi regroupant les 6 meilleures équipes de la Ligue afin d'établir un classement final avant le début des playoffs. Vainqueur de 19 de ses 20 matchs de saison régulière, les Martignurins font office de grands favoris pour le titre. Si une promotion n'est pas à l'ordre du jour d'après le comité, le coach octodurien Oleg Siritsa se contenterait déjà bien volontiers de la coupe.
Pour moi, c'est le sucre et on veut gagner. On veut gagner. S'il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de promotion. C'est pas parce qu'on ne fait pas de promotion qu'on ne veut pas gagner. Une coupe, c'est une coupe. Une médaille, c'est une médaille. Donc, on va la chercher.
Le fait de pouvoir jouer en première ligue devant autant de monde avec un club qui a très vite trouvé ses abonnés, qu'est-ce que ça veut dire de cette ville, de ce club?
C'est super important, c'est qu'on voit que les gens ils suivent, ils viennent au match, on a plus que le double des supporters de la ligue, de la deuxième, troisième équipe, donc c'est ça le challenge. C'est ça le challenge pour nous, c'est que les gens ils se mettent autour de l'équipe et ils la suivent et on donne aussi du spectacle pour les spectateurs qui viennent voir les matchs.
Oleg Siritsa répondait à Thierry Nicolet. Une moyenne de 620 spectateurs par match était présente lors de la saison régulière au Forum de Martigny.
Édimbourg, Liverpool... Liverpool... Oh, pardon.
On la refait.
Édimbourg... Non, pas déjà. Pas un fruit au mois de janvier, on n'a pas le droit. Édimbourg, Liverpool, Cardiff.
On parle de cyclisme, les trois premières étapes du Tour de France 2027. Après un départ de la capitale écossaise, vont traverser trois des quatre nations constitutives du Royaume-Uni. L'idée est de susciter la même ferveur populaire que les deux précédents grands départs britanniques, selon les organisateurs.
Merci Léa.